RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs du monde entier. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et les chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le Sénégal est la porte d'entrée potentielle pour des produits d'exportation indonésiens. La Russie propose un programme de formation pour les médecins spécialistes des maladies infectieuses. Le ministère de l'Industrie augmente les exportations de produits de mode vers Paris. L'Indonésie et Taïwan coopèrent pour la protection des travailleurs migrants. Les auditeurs, voici le journal complet. Le continent africain est l'une des régions qui a l'objectif de renforcer la diplomatie économique de l'Indonésie depuis l'année dernière. À la suite de l'instruction du président indonésien Joko Widodo au début de 2018, les représentants indonésiens à l'étranger, en particulier dans la région africaine, ont été invités à élargir leur coopération économique. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont deux pays qui offrent actuellement des opportunités à l'Indonésie dans ce domaine. Didik Trimarjono, le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade d'Indonésie à Dakar, le Sénégal, a déclaré récemment que le Sénégal était la porte d'entrée potentielle pour divers produits d'exportation indonésiens, tant des produits non traditionnels ou des produits non industriels stratégiques tels que l'alimentation et les textiles pour la région africaine. Selon Didik, pour les produits stratégiques, par exemple, le Sénégal a acheté des avions de type CN de 3-5 produits par PT Dirgantara Indonesia et engagé à acheter des navires, 10 trains, locomotives et des plans d'achat d'environ 50 unités de charge. Le gouvernement russe ouvre un programme de formation à Vladivostok destiné aux médecins et aux experts de la santé spécialisés dans les maladies infectieuses des pays de l'ASEAN afin qu'ils puissent étudier à Vladivostok. La ville de Vladivostok, située dans l'est de la Russie, a un centre de traitement des maladies infectieuses avec des professionnels très experts dans leur domaine. L'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de l'ASEAN, Alexander Ivanov, en mars de l'octroi d'équipement médical à l'hôpital général de Chandra Persahabatan à Jakarta, a déclaré vendredi qu'il savait que les maladies infectieuses étaient une question très importante pour les pays de l'ASEAN, y compris l'Indonésie. Par conséquent, il a proposé des programmes de formation pour les médecins de l'ASEAN à Vladivostok. Le programme qui se déroulera de 2019 à 2021 facilitera 100 médecins et spécialistes des maladies infectieuses de l'ASEAN à étudier en Russie. Il espère que cette coopération pourra être réalisée rapidement pour accueillir la commémoration de 70 ans de relations diplomatiques russo-indonésiennes en 2020. La Direction générale des petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie augmente les exportations de produits de mode en facilitant les désignés de Indonesian Fashion Chamber à la mode sur la scène à Paris, la France, le 1er décembre 2018. Le directeur général de petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie, Gati Wibawaningsi, à Jakarta, a déclaré récemment que le lancement de cette activité avait pour objectif d'accroître la valeur d'exportation des produits de mode nationaux, notamment la mode musulmane, sur le marché européen et des pays de l'Organisation de la coopération islamique. Cet événement était considéré comme un succès dans la promotion des vêtements musulmans par des désignés indonésiens et attirer l'attention du monde entier avec 400 participants étrangers, entre autres l'Italie, l'Australie, l'Allemagne, Taïwan, la Corée, les États-Unis et les Émirats arabes unis. À cette occasion, le ministère indonésien de l'Industrie a également lancé le Festival international de la mode musulmane qui se tiendra en 2019 avec le concept d'une exposition business to business qui sera assistée par environ 250 invitations. Les invités sont des achateurs potentiels de divers pays tels que l'Italie, l'Australie, l'Allemagne, Taïwan, la Corée et la Russie. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du Bureau économique et commercial indonésien à Taipei, a signé un mémorandum d'accord avec le Bureau économique et commercial de Taipei à Jakarta concernant le recrutement, le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens. La signature du mémorandum d'accord a été effectuée par le chef de l'intermédiaire du Bureau économique et commercial indonésien à Taipei, ou IETO, Didi Sumedi, et par le chef du TETO, John Shechen. Le ministre indonésien du Travail, M. Hanif Dakiri, et le ministre du Travail de Taïwan, Su Ming-chun, ont assisté à la signature du mémorandum d'accord vendredi à Taipei, Taïwan. Avec cette coopération, les parties ont convenu de promouvoir la collaboration bilatérale et les échanges en termes de formation professionnelle, de développement des compétences, d'aide au travail, start-up pour les femmes, de renforcement des capacités pour des personnes handicapées par la plateforme des organisations internationales ou du mécanisme de partenariat régional. Le ministre indonésien de la Manne de Freux, Hanif, a déclaré que cette signature était une référence pour la coopération entre les deux parties afin d'améliorer la qualité des ressources humaines des travailleurs migrants indonésiens qui travaillent à Taïwan afin de mieux les protéger et d'améliorer leur bien-être. Le ministre de la Manne de Freux de Taïwan, Su Ming-chun, a grandement apprécié les travailleurs indonésiens pour leur discipline et bonne manière. Les auditeurs, voilà le journal d'aujourd'hui.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Bonsoir à tous, voilà la mise au point de la semaine, dont le titre d'aujourd'hui est « La mise en œuvre de la reconstruction et de réhabilitation après le séisme est accélérée ». Le vice-président, M. Yusuf Kalla, a déclaré à Jakarta mercredi qu'il accélérait la mise en œuvre de la reconstruction et de la réhabilitation après le séisme dans le centre de Sulawesi et dans l'ouest de Nusa Tenggara. L'accélération du développement à Lombok est axée sur la fabrication de composants, tandis que pour Palu, le gouvernement déterminera bientôt la région de la réinstallation et de la construction de logements. Selon lui, dans le centre de Sulawesi, la carte de relocalisation a été déterminée, tandis que le centre d'hébergement temporaire, le décembre, commencera à être occupé. Il a expliqué que les fonds d'indemnisation pour les victimes du séisme à Ntebe ont été émis par le ministère des Finances. En ce qui concerne l'existence de tentes, le vice-président a assuré que la tente ne se trouvait pas dans le camp de réfugiés, mais à proximité des maisons des résidents. Le ministre des Travaux publics et du Logement public, Basuki Hadimul Jono, a déclaré qu'à Palu, 120 résidences temporaires peuvent être occupées le 17 décembre 2018. On souhaite que 699 résidences temporaires puissent être achevées à la fin décembre. À Nusa Tenggara de l'Ouest, on va accélérer la reconstruction de logements ciblés à 74 000 unités. Il y a 4 choix de maisons construites, à savoir maisons instantanées, simples en bonne santé, maisons en bois instantanées, maisons instantanées classiques et maisons d'impression indonésiennes. Selon Basuki, la maison instantanée, simple en bonne santé, est l'un des intérêts de la population de Lombok, mais sa production n'atteint que 80 à 100 unités par jour. On a besoin d'environ 300 unités par jour pour être achevé environ en 8 mois. Pour cette raison, on augmentera le nombre de ressources humaines. Les écoles d'urgence qui sont construites par le ministère des Travaux publics et du Logement ont également été construites. L'école est faite par le gouvernement, le secteur privé et d'autres institutions sociales. Le gouvernement a également défini les zones exposées qui ne peuvent pas être utilisées comme des habitations. Et des zones résidentielles ont également été établies qui seront construites par le ministère des Travaux publics et du Logement public. Le ministre de la Coordination du Développement humain et de la Culture, Puan Maharani, a expliqué que le progrès de la coordination qui a été fait par sa ministère, entre autres l'accélération de la construction des maisons après la catastrophe dans l'ouest de Nusa Tenggara. Chers auditeurs, c'était la mise au point de la semaine.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui le 16 décembre. On commence par le 16 décembre 1971, le jour de la victoire au Bangladesh. La guerre d'indépendance du Bangladesh est un conflit armé entre le Pakistan de l'Ouest ou le Pakistan et le Pakistan de l'Est ou Bangladesh et Inde. Cette guerre a conduit à la création du pays du Bangladesh. Elle durait du 26 mars au 16 décembre 1971. Le Pakistan de l'Ouest a lancé une opération militaire contre des résidents, des étudiants et du personnel armé à Pakistan de l'Est ou Bangladesh afin de détruire leur résistance à l'indépendance du Pakistan. Après cette guerre, le Pakistan de l'Est a été devenu indépendant en tant que Bangladesh. Le 16 décembre 1999, la Révolution roumaine. La Révolution roumaine de 1999 était une manifestation à grande échelle pendant une semaine qui a commencé le 16 décembre 1999. Le mouvement cherchait à renverser le régime communiste de Nicolae Ceaușescu. La dispute avec une violence croissante a abouti au procès à l'exécution de Ceaușescu et de sa femme Elena. La Roumaine et le seul étaient un membre du bloc de l'Est qui a renversé son régime communiste par la violence et l'exécution de son chef. Le nombre total de morts à cause de cette révolution était 1104 personnes. Le 16 décembre 1991, l'indépendance du Kazakhstan. Le Kazakhstan a proclamé son indépendance le 6 décembre 1991. Les Kazakhs étaient le groupe ethnique le plus important occupant la région du Kazakhstan. Ils venaient des tribus turcs et mongols. Et au début du XVIIIe siècle, le Kazakhstan était occupé par la Russie. Lorsque la révolution communiste a gagné en Russie et que l'Union soviétique a été créée depuis 1920, le Kazakhstan a été devenu l'un des 15 pays incorporés à l'Union soviétique. Avec la dissolution de l'Union soviétique, le Kazakhstan s'est libéré et est devenu un État républicain. Ce pays a un avantage géographique car il se situe entre l'Asie centrale et l'Europe de l'Est, de sorte qu'il est géopolitiquement réalisable. Chers auditeurs, c'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir à tous, voici mon Indonésie, dont le titre d'aujourd'hui est « Le golfeur mondial numéro 2 est présent au tournoi de golf de maître indonésien 2018 ». Le tournoi de golf de maître indonésien 2018 a lieu au Halim Perdana Kusuma Royal Jakarta Club du 13 au 16 décembre. Comme l'année dernière, le championnat a été sponsorisé par l'une des banques de l'État. Environ 120 golfeurs d'Indonésie, des meilleurs golfeurs asiatiques et mondiaux, ont y participé et se disputé des prix d'un montant total de 150 000 dollars américains, environ 11 milliards de roupies. Trois golfeurs de classe mondiale présents, ils sont Justin Rose, Henrik Stenson, Subhankar Sharma. Justin Rose, un golfeur britannique classé au deuxième rang mondial, s'est dit prêt à défendre le titre du BNI Indonesian Master. Mais il prédit que le tournoi de cette année sera plus rigoureux car de nombreux golfeurs difficiles ont participé. Pour cela, il donnerait sa meilleure capacité à défendre la coupe qu'il a remportée l'année dernière. L'un des autres participants au tournoi, Subhankar Sharma, un golfeur indien, lors d'une conférence de presse tenue au Royal Golf Club, a déclaré qu'il ne pouvait pas attendre pour jouer car il avait déjà reconnu plusieurs choses sur l'état du terrain de golf. Il veut donner le meilleur du tournoi qui s'est déroulé à la fin de 2018. Subhankar Sharma était présent au Master indonésien en tant que golfeur numéro 1 de la tournée asiatique. De son côté, le golfeur suédois Henrik Stenson, champion du monde 2016 et également médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016, est classé 28e au monde, a déclaré qu'il était difficile de devenir qui serait le top 4 du championnat cette année. Il a ajouté qu'il avait participé à de nombreux matchs de golf asiatique au cours de sa carrière et qu'il avait su des développements de la force du talent des joueurs asiatiques. Le président directeur de BNI, en tant que sponsor principal du tournoi, Ahmad Baykouni, a espéré que ce tournoi pourrait devenir un moyen d'attirer de nouveaux golfeurs qui excellent à l'avenir, en particulier de golfeurs indonésiens. En plus de tenir le Master indonésien 2018, BNI a organisé également une clinique de coaching de golf qui est directement encadrée par le golfeur numéro 2 mondial, Justin Rose. Le tournoi qui a débuté en 2011, cette année a été le 8e Master d'Indonésie où plusieurs des meilleurs golfeurs du monde se sont battus lors de cet événement. Le golfeur britannique, Lee Westwood, détient un record de 3 titres de maître indonésien, à savoir en 2011, 2012 et 2015. Chers auditeurs, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Au revoir.
«
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine Cultura. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct à www.voinews.id. Aujourd'hui, je vous invite à visiter Yogyakarta pour profiter de la cascade de Gedat. Restez donc avec notre émission RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, le district de Gunung Kidul à Yogyakarta possède un potentiel de tourisme naturel extraordinaire. De nouveaux sites touristiques ont vu le jour, comme la cascade de Gedat, ou souvent appelée ATG par la communauté locale. La cascade de Gedat se trouve dans le hameau de Gedat Banyusoko Placen à Gunung Kidul. Cette cascade est donc appelée la cascade de Gedat. On commence à l'ouvrir en décembre 2016. Chers auditeurs, la cascade de Gedat a ses propres caractéristiques. La hauteur de la cascade de Gedat n'est que de 10 à 15 mètres, mais les murs sont assez larges et comportent des escaliers. L'écoulement de l'eau est donc blanc et mousseau, et il a l'air très artistique. Dans la piscine ci-dessous, nous pouvons prendre une douche, faire tremper et jouer à l'eau. De plus, devant la cascade, se trouve une place spéciale pour prendre des photos. L'atmosphère dans ce lieu touristique est toujours très belle. C'est parfait pour vous qui aimez la photographie. Chers auditeurs, la cascade de Gedat se situe à environ 50 km du centre de Jogja, dont le kilométrage est environ 2 heures. Comme elle venait juste d'être ouverte, elle est toujours gratuite. Ça suffit de payer un droit de stationnement de moto de 2000 roupias. Mais puisqu'elle est la nouvelle touristique, les installations disponibles ne sont pas encore suffisantes. Chers auditeurs, selon l'histoire, la cascade de Gedat a été découverte par Kiai Adu Darda, l'un des maîtres spirituels musulmans. Il a creusé le sol sur le mont Rungung par des falaises de montagne et a drainé les eaux jusqu'au village de Gedat. L'un des ruisseaux est devenu la cascade de Gedat. Pour arriver à la cascade de Gedat, les visiteurs peuvent prendre un véhicule traversant des routes pavées et des petites routes rocheuse jusqu'à 300 mètres. Ensuite, vous pouvez garer le véhicule devant la maison des habitants. Puis, continuez à marcher sur les rochers calcaires de 50 mètres. Chers auditeurs, quand vous arrivez à la cascade de Gedat, vous regarderez un charmant panorama naturel. Une cascade claire et nette de collines calcaires et le flux rapide de cascades qui heurte de gros rochers, provoquant la scission de l'eau comme un éclat de lumière. Des ponts de bois et de bambou, ainsi que de grandes cocotières, rendent plus exotique cette cascade. Au-dessous de la cascade de Gedat, il y a un pesantren, ou l'autre institution d'éducation musulmane en Indonésie, qui a été fondée par Kiai Darda. Chers auditeurs, c'est toute l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui parlant de la cascade de Gedat, le lieu touristique intéressant de Yogyakarta. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Au revoir!
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. On se rencontre dans la rubrique L'Indonésie en couleur avec moi, Tiwi. J'ai le plaisir de vous informer sur le titre Gili Strong Triathlon 2018. Restez avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Parlons de course de 3325 kHz ou par www.voinews.id. Chers auditeurs, les séismes successifs qui ont secoué les îles de Lombok et du district de Sumbawa, qui ont commencé par le séisme de magnitude 6,4 le 29 juillet 2018, suivi par le séisme de magnitude 7,0, ne laissant qu'un profond chagrin à certains habitants de Nusa Tenggara de l'Ouest. Mais cela a aussi un impact sur le secteur du tourisme de Lombok et sur la province de Ntb en général. Des milliards de touristes nationaux et étrangers ont été forcés d'évacuer. Maintenant, le tremblement de terre est passé. Le gouvernement et les résidents locaux, et aussi les hommes d'affaires, ont commencé à se lever et à reconstruire le secteur du tourisme de Ntb. L'un d'eux consiste à organiser divers événements touristiques. Les touristes de Gili Trawangan, le district de Lombok du Nord du Ntb, qui sont membres de l'Association des entrepreneurs de Gili Trawangan, ou APGT, de l'Association de l'Hôtel de Gili, et Gili Eco Trust ont lancé le Gili Strong Triathlon 2018. Cette activité vise à accélérer la résurrection du tourisme à Lombok et à Ntb en général. Chers auditeurs, l'événement de Gili Strong Triathlon 2018 aura lieu le 22 décembre. Achok Zani Basok, président de la PGT et également président du comité du Gili Strong Triathlon 2018, a déclaré que l'événement de tourisme sportif associerait marathon, natation et cyclisme pour soutenir la relance du tourisme de Ntb, tout en augmentant le nombre de visites touristiques dans la région. En outre, il a également pour but de stimuler le taux de l'occupation à Trawangan. On espère également que cet effort produira des résultats afin que l'activité touristique de Ntb soit de nouveau enthousiasme. Chers auditeurs, lors de l'événement de Gili Strong Triathlon, les participants s'affronteront sur une course de 7 km, nageront sur 600 m et parcourront des cyclistes de 5 km. Le circuit est au Gili Trawangan. Pour les participants au Gili Strong Triathlon, outre la compétition sportive, ils peuvent également profiter de la beauté de Gili Trawangan. De plus, dans cet événement, il y a aussi un certain nombre de stands culinaires qui suscitent les goûts des touristes. Un certain nombre d'attractions artistiques et culturelles distantes y performeront, de sorte que les touristes qui viennent seront très impressionnés par le Gili Strong Triathlon. Chers auditeurs, c'est tout l'Indonésie en couleur cette fois-ci.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie. Nous sommes de nouveau ensemble dans la rubrique Courrières et musique. L'équipe de l'émission française de la voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courrières, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons chantées par Tara Adia, la fille de la meilleure chanteuse indonésienne de Kroncong, Indra Utami Tamsir. Pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, écoutons la chanson intitulée « Rindu Selamanya » ou en français « Il me manque toujours ». Restez avec nous à www.voynews.id.
Sedih yang tak berujung bila mengingat semua kasih sayang. Lembut kecupmu, penantianmu, hilang kau dan cintamu, membawa semua perasaanmu, utuh cintamu, hati pikiranmu, ku rindu hadirmu kini. Tak dapat menyentuh sosokmu, hanya dapat melihat bayangmu di mimpiku semalam. Kau yang selalu hadir di malamku, menghampiri setiap lamunanku. Ku rindukan selamanya di hati. Tuliskan lagu-lagu sendu, syair cintaku, melodi rintihku, lukiskan rinduku kini. Ku tak dapat menyentuh sosokmu, hanya dapat melihat bayangmu di mimpiku semalam. Yang selalu hadir di malamku, menghampiri setiap lamunanku. Ku rindu kau selamanya di hati. Thank you.
Voilà la chanson de Tara Adia, dont le titre est Rindu Selamanya, ou en français, Il me manque toujours. C'est une chanson écrite par elle-même, basée sur son expérience personnelle. Cette chanson raconte de la personne qui a envie de quelqu'un qu'elle aime, mais elle sait qu'elle ne la rencontrera jamais pour toujours. Maintenant, je vais saluer Mauro Girolati, SWL, 1510IK de GFT, via Marzaboto, 7-0090 Bukinaso, d'Italie. Vous avez écrit: Cher monsieur et madame, je m'appelle Mauro Girolati. Je suis un passionné d'écoute de la radio et j'aurai le plaisir d'écouter votre émission de radio. Merci pour le rapport d'écoute le 11 décembre 2018. Nous allons envoyer la carte QSL de vérification. Et je vais dire bonjour à mes amis de la France, Jean Barba, de 168 Avenue du Stade, 63110 Beaumont, France, et Gauthier Gillet, Radio Club du Perche, de 12 rue François Moriot, de 28110 Luc, France. Et pour Maurice Mercier en France, précisément à 537 rue François Giraud, 69400 Ville France, sur Saône. Et Bernard Grandin à Saint-Rouel-du-Pont, 97427 étant Salé-les-Hôtes, île de la Réunion, océan Indien. Et aussi Jean-Marie Monplot de 409 Faubourg Montmélian, 73000 Chambéry, France. Comment allez-vous, chers amis? Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé et restez toujours en contact avec nous. Chers auditeurs, je vous présente la chanson dont le titre « Bahagia menjadi satu » en français « Heureux d'être un » chantée par Tara Adia.
Menjanjikan harapan, telah kulupakan rindu, bahagia menjadi satu. Oh,
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée Bahagia menjadi satu ou en français Heureux d'être un, chantée par Tara Adia. Cette chanson est aussi sa création qui dit que tout le monde peut être heureux. Je vais dire bonjour à Christian Jubaudot de la rue Gaston Charbonnier, 06300 Nice, la France. Et bonsoir Chaloupna et Idriss Boudina à 1130 Springdale Drive, Pittsburgh, PA, 15236 USA. Comment allez-vous? Bon week-end à vous et que j'apprécie sincèrement que vos réponses soient agréables. Et aussi pour Nahmouchi Noiri de BPS 154 Bicetif en 9000 Algérie. Merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. Comment ça va mes amis? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, ensuite je vous présente une autre chanson de Tara Adia intitulée Yang Terdalam ou en français Le Plus Profond.
Kini semua berbalik sadis padaku. Saat ku tahu cintanya tak lagi butuh untukku. Lama dia berdiri menahan rasa cinta yang telah mendalam. Telah ku sadari akan ku jaga cintanya.
Bisa memutar waktu kan ku
Voilà yang terdalam ou un français le plus profond de Tara Adia. Comme les deux chansons précédentes, cette chanson est aussi une création de elle-même. Lancée à la fin d'octobre 2015, cette chanson porte le thème de l'amour. Et voilà, chers amis, c'est la fin de ce courrier. Merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de la Voix d'Indonésie vous dit un grand merci à tous. Nous attendons de bonnes nouvelles de vous et restez toujours en contact avec nous. Et voici la dernière chanson intitulée Inika Bahagia ou en français S.O.R.O. chantée par Tara Adia. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325 kHz
par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Thank you.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.